Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission, Isabelle, avec vous pour les deux prochaines heures. On avait prévu de discuter des répercussions des politiques de Donald Trump, président américain. Vous savez, l'homme qui se gêne pas pour grabber les filles by the pussy. Mais finalement, on devait discuter de ça et de l'impact de ces politiques sur le Québec et les emplois chez nous. Mais l'actualité nous force à revoir notre plan. Je vous promets, beaucoup de gens ont réagi d'ailleurs sur ce qui s'est passé avec Bombardier cette semaine et la transaction avec Airbus. On aura l'occasion d'y revenir probablement demain ou en début de semaine prochaine. Mais je pense que ce matin, on n'a pas le choix que de poursuivre notre discussion, une discussion importante pour la société dans laquelle on vit. On ne peut ce matin se fermer les yeux, vouloir entendre parler d'autre chose que de ces dénonciations d'agressions sexuelles, d'inconduites sexuelles qui touchent bien sûr des personnalités de premier plan. Éric Salvaille, de qui à peu près tout le monde s'est distancié maintenant, avec des allégations d'inconduite sexuelle dans son cas, mais aucune accusation formelle portée contre Éric Salvaille jusqu'à maintenant. Autre cas, celui de Gilbert Rozon, qui a annoncé par voie de communiqué qu'il se retirait de toutes ses affaires courantes. Dans son cas, dans le cas de Gilbert Rozon, il y a des plaintes toutefois qui ont été logées et des témoignages puissants, des témoignages forts, des témoignages qui nous ébranlent, qui nous font nous revoir. Je pense que toutes les filles au Québec aujourd'hui font un espèce d'examen de leur vie passée, à savoir, mon Dieu, est-ce que ça m'est arrivé à moi aussi? Vous savez, le fameux mot clic, moi aussi. Beaucoup de femmes ont eu l'occasion de le dire. Vous le savez, on en a parlé hier avec ma collègue Catherine Brisson. Les hommes aussi qui se disent, coudonc, est-ce que j'aurais posé un geste puis je m'en suis pas rendu compte? J'ai parlé à des gars qui m'ont dit ça. Hey, je regarde dans mon passé. Est-ce que j'ai pu, moi aussi, être potentiellement quelqu'un qui a commis ce genre de geste? Vous voyez à quel point là ça remue beaucoup de choses chez nous. Mes deux collègues, Monique Néron et Émilie Perrault, ont enquêté au cours des derniers jours sur cette situation-là et ont réussi à parler à beaucoup de femmes. Malheureusement, oui, beaucoup. Beaucoup d'artistes, beaucoup des femmes du milieu du show business. Je vous les représente. Monique, Émilie, merci d'être avec nous ce matin. Je pense que c'est important de revenir sur les témoignages que vous avez recueillis. Monique, d'ailleurs, en ce qui concerne Gilbert Rozon, il y a une plainte là qui remonte à une situation dont tu étais au courant, toi, et sur laquelle tu enquêtes depuis déjà quelques mois.
Oui, absolument. En fait, la première information qu'une source policière m'a transmise, c'était l'hiver dernier, Isabelle. Et à ce moment-là, le policier qui communique avec moi, bien entendu de manière non officielle, me dit « Il y a une plainte qui a été portée contre Gilbert Rozon, une plaignante qui a été accueillie au poste de quartier 22 à Montréal. » Et ce policier-là et ses confrères s'inquiètent de la suite des choses, parce qu'ils ont pu entendre parler, ils savent qu'il n'y a pas d'accusation. Et la raison pour laquelle ils font appel à moi, c'est qu'ils me demandent si moi, je suis capable de savoir qu'est-ce qui est arrivé à la suite de cette plainte-là. Là, vous comprendrez.
Il y a plusieurs mois, là.
On est l'hiver dernier, 2017. Okay. Donc là, c'est le premier son de cloche. Et là, évidemment, vous comprendrez qu'on part de loin. Là, c'est excessivement complexe de confirmer une information comme celle-là quand on passe l'étape numéro un de constater qu'il n'y a pas d'accusation et qu'il n'y a pas de dossier qui a été soumis au procureur ou en tout cas, à tout le moins, c'est très difficile de confirmer.
Et quelle était cette plainte, Monique?
C'était une plainte concernant une jeune entrepreneure de 25 ans qui avait porté plainte au SPVM qui alléguait avoir été agressée sexuellement par Gilbert Rozon. En marge, Isabelle, de ce qui devait être un rendez-vous d'affaires. D'accord? Elle avait participé à l'émission Les Dragons et lui avait offert du mentorat. Donc, la rencontre a lieu à la suite de ça. Et au terme de l'enquête, donc moi, ce que j'apprends là, récemment dans la foulée là, de ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a eu rencontre avec le procureur du DPCP, un sergent détective, avec la plaignante. Et qu'est-ce qu'on lui a dit à ce moment-là? On lui a dit, on ne peut pas porter d'accusation pour le moment. Donc, la plainte qui a été déposée en décembre 2016, elle est toujours active présentement. Cependant, c'est le statu quo, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas soit de nouvelles preuves ou encore, et c'est là où ça change la donne, je pense, aujourd'hui, de nouvelles plaignantes. Hier, on le sait, c'est important de le rappeler, il y a une femme qu'on a d'ailleurs rencontrée cette semaine, un petit peu plus tôt, Émilie et moi, qui a porté plainte. Donc, elles sont deux présentement. Celle qui a porté plainte hier a requis l'anonymat. Il y aura procédure et ça, c'est tout à fait normal et légitime qu'on ne la nomme pas.
Mais attends, là, ce que tu dis, c'est que l'hiver dernier, les policiers étaient au courant d'une plainte logée par une victime alléguée de Gilbert Ozon et que on lui a dit on peut pas porter d'accusation pour le moment. Donc cette plainte là n'a pas été considérée donc.
C'est le DPCP,
on a comme tenu
il y a un procureur.
Mais elle est jugée non recevable.
Elle est jugée non recevable. Il y a eu enquête policière et avec la consultation d'un procureur au DPCP, il fut décidé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Vous savez, hein, le fameux doute raisonnable. Il faut aller en cour, il faut être capable de prouver hors de tout doute raisonnable. Le procureur a sans doute à ce moment-là jugé que la preuve n'était pas suffisante. Et aussi, ce que je dois souligner, ce qui est sorti de ça, c'est sa parole contre la sienne. Donc, ce n'était pas assez fort. C'est toujours ça.
Donc là, vous avez une deuxième plaignante.
Bien, cette deuxième plaignante qui a porté plainte au SPVM, qui aurait été agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel de Paris en 1994. Donc ça, ce sont pour les plaintes au SPVM présentement. Bien entendu, ensuite, on remonte dans le passé pour aller à la rencontre de ces femmes, de ce qu'elles ont vécu, ces témoignages. Et il y a un témoignage qu'on va vous présenter à l'instant qui n'a pas encore été diffusé ce matin. On l'a recueilli dans les derniers jours, mais c'est la première fois qu'on le présente. C'est une productrice qui a décidé de rester anonyme et on respecte ça. Elle était âgée de 39 ans, automne 2001. En fait, elle a 39 ans aujourd'hui, pardon. Mmh. Automne 2001, elle travaille chez Juste pour rire depuis environ 2 ans. Elle a 23 ans, donc au moment où ça se passe. Mmh. Avec l'équipe, comme ça se passe souvent dans ce milieu-là, se rendre dans un restaurant, rue René Lévesque, pour célébrer là, une belle performance télé. C'est la première fois qu'elle rencontre Gilbert Ozon et elle nous explique au moment où elle est sa voisine de table.
Puis, il est assis à côté de moi, puis il me prend les cuisses. Ça commence à être un peu insistant. J'essaie de me dégager. J'étais un peu mal à l'aise. C'est le grand patron. Puis j'ai 23 ans, donc je commence dans le métier, puis j'étais un peu effrayée. À un moment donné, je vais à la salle de bain, je suis dans la cabine, puis la porte s'ouvre, je sors de la cabine, il m'a plaqué contre un mur, puis il a commencé à me faire des avances explicites de « viens chez moi », tout ça, puis je veux pas, je suis trop jeune et trop terrorisée, puis j'ai réussi à me déprendre de lui, puis je suis partie.
Wow, terrorisée. Émilie Perrault, on sait ce matin que plusieurs, presque une dizaine d'artistes, des femmes qui travaillent dans le milieu du spectacle, de la télévision, du cinéma, ont témoigné. Vous avez recueilli ces témoignages.
Entre autres, le témoignage de Pénélope, mais quoi qu'il n'y ait pas, sans rappeler celui qu'on vient tout juste d'entendre. En fait, les circonstances sont quand même un peu similaires quand on parle d'un pattern. Hein, c'est un peu ça. Donc, pour le cas de Pénélope, mais quoi, on est en 1997. C'est au moment où elle travaille à Salut Bonjour, en plein festival Juste pour rire. Donc, elle travaille très fort. Elle passe ses soirées à voir des spectacles. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va travailler directement à TVA à 3h du matin. Donc, elle reste sur place au cabaret du musée Juste pour rire en attendant que la nuit passe pour aller travailler. Donc, elle est dans un contexte de travail. Elle n'a pas bu. Elle est d'ailleurs avec sa fréquentation de l'époque au cabaret du musée Juste pour rire. Et voici ce qu'elle nous raconte.
Donc, je file en direction de la salle de bain, ouvre la lumière. Et tout de suite après moi, je sens donc quelqu'un qui rentre. Je sens, en fait, je vois la lumière se fermer. Et j'entends la porte se barrer et quelqu'un que j'ai aperçu était Gilbert Ozon. J'aimerais dire enlacé, mais c'est un terme trop trop tendre pour ce qui s'est passé. Il s'est jeté sur moi. Et j'ai complètement figé, complètement gelé, lui aussi d'ailleurs. Au bout d'environ, je présume, être une minute de plaintes, de plaidoyer, de je me rappelle juste mes phrases qui résonnent dans mon oreille, c'était « Gilbert, non, Gilbert, non, Gilbert, non, Gilbert, non ». C'était juste ça, et ça s'est pas rendu plus loin, je me suis donc extirpée de son étreinte, je suis sortie de la pièce, j'ai dit à la personne que je fréquentais à l'époque « viens, on s'en va ». Évidemment, ça pas de commune mesure avec un viol ou une agression violente, mais tout ça rentre sous le chapeau de la honte, qu'on peut ressentir, de la culpabilité qu'on peut ressentir. Alors, c'est sûr que j'ai, comme bien des gens, tendance à diminuer, à minimiser, à banaliser l'expérience. Mais ces comportements-là sont inacceptables.
Ouais, c'est clair.
Et donc, on a bien sûr recueilli d'autres témoignages, dont celui profondément troublant que vous allez entendre au cours des prochaines secondes. Chloé Giroux-Lachance, 43 ans, elle est technicienne en cinéma. Quand elle croise le chemin de Gilbert Ozon en 92, elle a 18 ans. Elle accompagne une amie de sa mère en Europe et elle se souvient, là, c'est les Jeux olympiques à ce moment-là, et pendant le voyage, il est toujours après elle.
Je pouvais me réveiller la nuit puis je le trouvais nu, fourré dans sa couverture, dans ma chambre, qui me regardait dormir ou des trucs comme ça. Fréquemment, pendant le voyage, il y a eu plusieurs moments où je me suis sentie un peu mal à l'aise de son comportement, mais je voulais pas créer de malaise avec la personne qui m'a invitée en voyage, surtout qui était là avec sa femme, puis que je voulais juste pas être la cause d'un drame en voyage. J'ai rien dit, je me tenais loin de lui.
Et elle nous explique qu'un soir, il lui dit « Je m'en viens dans ta chambre ».
Et là, Gilbert Rozon est venu me rejoindre pour me dire « Je vais te rejoindre dans ta chambre ». Et là, j'ai dit non. Ce soir-là, j'ai barré ma porte et j'ai eu de la misère à m'endormir. Puis quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il faisait clair. J'ai ouvert la porte. Puis là, ben, c'était M. Rozon qui était là, qui est rentré dans ma chambre, qui m'a poussé, qui a fermé la porte, qui m'a sauté dessus littéralement, qui a essayé de m'ôter ma jaquette tout en défaisant son pantalon et tout. Et donc, on s'est comme battu un peu comme ça pendant quelques, je sais pas, peut-être minutes. J'arrêtais pas de lui dire d'arrêter puis de me lâcher, mais ça n'arrêtait pas, fait que j'ai crié. Puis donc, comme quand j'ai crié, il s'est comme ressaisi, il s'est relevé, il s'est remonté son pantalon, puis il m'a dit que de toute façon, il était trop excité et que ça durerait pas assez longtemps. Il est parti et en ouvrant la porte pour sortir dans le corridor de l'hôtel, ben sa femme était dans le corridor parce qu'elle a dû entendre les bruits. Et à ce moment-là, il s'est pitché à terre et il a dit « Non, ce n'est pas ce que tu crois, non, non. » Et là, l'engueulade a suivi dans le corridor. Moi, je me suis levée puis j'ai refermé la porte de ma chambre.
Wow. Elle avait 18 ans là, quand ça s'est passé.
Et on va continuer le compte à rebours, si tu permets, Isabelle. Ouais, et là, ouais. On s'en va en 1990, puis je vous invite évidemment à porter attention à l'âge de Salomé Corbeau, à l'époque où ça s'est produit. Donc, on est en 1990, elle a 14 ans. Elle travaille au festival Juste pour rire dans la section des animations de la rue. Et bon, comme elle travaille au festival, elle est invitée au party à la fin du festival. Et voici donc ce qu'elle nous a raconté.
Et lors d'un de ces gros parties de fin de festival, Gilbert, qui était très, très intoxiqué, là, c'était visible à l'œil nu et à l'odeur, m'a sauté dessus, agrippé, a commencé à passer ses mains sous ma robe. Et je me suis mis à dire, ben voyons, Gilbert, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans et je suis quand même une jeune fille qui parle fort puis qui était capable de se déprendre. Fait que j'ai renommé très fort, j'ai 14 ans, espérant que les témoins autour, puisque c'était une fête en extérieur, dehors, entendent et réagissent, mais visiblement, les gens n'ont pas capté mon cri. Et au moment où Gilbert est descendu vers ma petite culotte et qu'il a réussi à y insérer un doigt, j'ai réussi à vraiment le repousser parce que, bon, ben, j'ai toujours été un peu baraquée et il a juste fait volte-face et a disparu.
C'est incroyable ce genre de témoignage.
Oui.
14 ans, clairement mineur. Puis là, dans ce cas-ci, le témoignage de Salomé Corbeau, c'est qu'elle a dit non. Elle a rappelé l'âge.
Il y avait des gens autour aussi.
Il y avait des gens autour et visiblement.
Et puisqu'on parle de mineurs, Sophie Moreau, recherchiste en cinéma-télévision, elle est la fille de l'humoriste et l'imitateur Jean-Guy Moreau, qui est décédé en 2012. En 88, elle a 15 ans. Son père connaît super bien Gilbert Rozon, c'est même son meilleur ami, vous allez l'entendre, elle le dit elle-même. Elle est embauchée comme réceptionniste chez Juste pour rire, c'est son premier emploi d'été.
Puis la première fois, c'est un soir pendant le festival, il y avait un spectacle à la Place des Arts. À l'époque, je connais vraiment bien la Place des Arts parce que mon père était là souvent. C'est que je connais les loges, je connais toutes, là. Puis Gilbert, il m'a amené backstage, mais pas dans le bon backstage. Puis il m'a amené dans la salle de... comme les trucs de maintenance. On descend un escalier métallique, puis il fait noir en bas, puis je le sais qu'on va pas à la bonne place. Je le sais. Parce que je la connais, la place. Mais je descends parce que c'est Gilbert, c'est le meilleur ami de mon père, puis j'ai confiance en lui, évidemment. Puis là, il me prend dans ses bras, puis il me dit « embrasse-moi », puis il me regarde, puis j'ai 15 ans, je suis quand même développée à cet âge-là, même pas mal développée. Et bref, il me presse contre lui, puis il veut que je l'embrasse, puis je refuse, évidemment, et je le repousse. Je dis non, mais pas violemment, juste non. Moi, j'ai embrassé un gars dans ma vie avant, le fait que je suis vraiment pas prête. Fait que il part à rire, il voit qu'il n'y aura rien, ça ne marchera pas, puis je suis terrorisée.
On retient à nouveau le mot terrorisé ici. Mm-hmm. 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 Je tiens quand même à dire qu'on est dans un processus là, où il y a effectivement la présomption d'innocence.
Oui.
Je pense qu'on le dit tous oui. parce qu'on est un peu obligé de le dire. Alors, on le dit. Mais là, quand un témoignage, visiblement, tu nous disais tout à l'heure, oui. Monique, quand une femme va se plaindre, parfois il arrive que la police ne retienne pas ou enfin que les procureurs ne retiennent pas la plainte. Là, quand il commence à y avoir un mouvement auquel on assiste là, depuis quelques jours, ça devient quand même un peu plus gênant, malaisant, comme on aime dire en ce moment, de fermer les yeux encore.
C'est la force du nombre. C'est très certainement ce qui ressort de l'enquête qu'on a menée, Émilie et moi. Et vous savez, devant les tribunaux, il peut y arriver dans des cas d'agression sexuelle multiple où il y a de plusieurs plaignantes qu'on fasse ce que les avocats appellent une preuve de fait similaire. C'est-à-dire qu'on a des patterns, on a des modus operandi qui reviennent, on a des faits similaires, voilà. Et donc, justement, la force du nombre fait en sorte que ça donne du poids à la preuve qui est présentée. Bien entendu, on ne prétend pas du tout faire le travail qui doit être fait devant les tribunaux. C'est bien important de le dire, là, parce que ces filles-là, pour la plupart, ont décidé de ne pas porter plainte. Certaines se sont présentées à la police. On leur a dit, votre dossier, il est trop vieux. Elles ne portent pas plainte pour toutes sortes de raisons.
Est-ce que c'est juste de dire ça? Est-ce qu'effectivement, un temps...
Non, ce n'est pas juste de dire ça. Il n'y a pas de délai de prescription dans un contexte d'agression sexuelle. Je me souviens, Isabelle, le plus vieux cas que j'ai fait, là, une dame que j'avais interviewée avait porté plainte après 50 ans. Imaginez. Sa mère venait de mourir et elle avait décidé, moi, j'en peux plus, je vais aller jusqu'au bout de cette procédure-là. Donc, il n'y en a pas de délai de prescription.
Beaucoup de gens m'écrivent là-dessus. Beaucoup de gens ont des réactions ce matin, surtout après l'histoire de Roson ou la plainte, entre autres, de cette femme en France, à Paris. L'agression sexuelle, entre autres, il y a une plainte, là, ça s'est passé en 1994 à Paris. Bien des gens, leur réaction, c'est de dire, hey, 1994, les cas, on a entendu les témoignages des femmes que vous avez interviewées. 1988, 90, 92, 97, Lynn Charlebois, 1982 également, la réalisatrice Charlebois. Donc là, ça fait longtemps. Les gens vont dire, quand ça fait 30 ans, là, c'est-tu encore nécessaire?
Mais c'est parce qu'on parle ici, juste ce qu'on a pu recueillir cette semaine, de 10 femmes qui totalisent une période de 35 années. On parle d'agression sexuelle de 1982 et d'harcèlement. Là, on s'entend, ce ne sont pas tous des cas où il y a eu attouchement ou contact. Oui, il faut être très prudent, j'en suis parfaitement consciente. Mais de 82 jusqu'à la plainte la plus récente, donc 2016.
35
pour
ans.
Un événement survenu présumément en 2016.
Bien des gens vont se dire aussi, il y a quand même eu Émilie Perrault en Gilbert Roson, c'est pas la première fois.
En 1998, effectivement. Bon. On se rappelle, il a plaidé coupable à ce moment-là. Donc, agression sexuelle, ça se passe au manoir Rouville-Campbell. C'est une croupière donc, qu'il avait accusée. Il plaide coupable. Il reçoit une absolution inconditionnelle. Donc, effectivement, c'est arrivé en 1998. Et je ne sais pas si la question est pourquoi à ce moment-là, les gens ne se sont pas manifestés. Et il y a de multiples réponses. Évidemment, je ne peux pas parler pour les victimes. Ce que je peux vous dire, puis je pense que vous l'avez entendu, l'émotion qu'il y a dans la voix, ce n'est pas parce que ça fait 35 ans que ça fait pas mal à raconter. Et il y a beaucoup de femmes, comme Pénélope le disait, qui ont essayé de le banaliser. Je pense que c'est le cas, par exemple, de Salomé Corbeau, ce qu'elle nous a raconté. Elle dit, ben là, bon, c'est arrivé. Puis plus elle la racontait, puis plus on dirait qu'elle se rendait compte. Mais attends, j'avais 14 ans. Et c'est arrivé. Donc, il y a ce processus-là, je crois, parfois, que les femmes elles-mêmes...
Et pourquoi? Parce qu'on voit que ces gens-là continuent d'avoir des postes importants, montent dans l'échelle sociale.
Voilà.
Et sont même, dans le cas de Roson, en 98, tu disais, qui a été réhabilité d'une certaine façon. Regardez tous les postes qu'il occupait. On l'a tous côtoyé. Moi, jusqu'à l'été dernier, j'ai fait une entrevue avec. Jusqu'à il y a quelques jours, on s'est parlé. Tu sais, tu te dis... C'est des gens avec lesquels tu ne peux pas ne pas compter. Même chose avec Éric Salvaille. Vous pensez...
Il y a la peur, effectivement.
Dans le cas d'Éric Salvaille, on précise, il n'y a pas de plainte officielle.
Pour l'instant, il n'y a pas de plainte officielle. On verra pour la suite. Mais il y a effectivement ce climat de peur. Là, on connaît en ce moment qu'est-ce qui s'est passé. On sait que Gilbert Roson a démissionné. Quand on les a rencontrés, là, lundi, mardi, quand on leur parlait... Là, elles avaient peur. Elles disaient, attends, c'est Gilbert Roson.
Elles vous l'ont dit?
Ben oui, tout à fait. Ça n'a pas été, difficile de les trouver, ces femmes-là.
Elles voulaient parler.
Elles voulaient parler. Mais de les convaincre de témoigner, ensuite, elles ont décidé de le faire à visage découvert, ce qui est encore plus rare.
Et courageux.
Et courageux et digne, disons-le. Et chacune disait, moi, je le fais pas si on n'est pas au moins 4, au moins 5. Pour une autre, c'était au moins 10.
Est-ce que ça a été genre, écoute, allez chercher d'autres témoignages, puis là, je pourrais vous donner le mien?
C'est en plein la démarche qu'on a faite. Et on a réuni plusieurs femmes. On s'est rencontrées avec elles dans un café. Et c'est là qu'on a eu cette discussion. Et c'est là, d'ailleurs, Émilie faisait référence à Salomé Corbeau, qui, à un moment donné, dans cette discussion-là, à force d'entendre les témoignages des autres, à force de raconter son histoire, où elle réalise la gravité après toutes ces années. C'est comme si c'était resté quelque part. Et ça a été très, très émotif pour ces femmes-là de remonter dans leurs souvenirs.
Des femmes qui se sont croisées, qui ont dit « Attends, pas toi, je te connais ». Comment ça? Oui. Les deux, on était victimes de la même personne. Mais une chose très importante, chaque témoignage a été enregistré séparément. Oui. Les filles connaissaient leur histoire, ça n'a pas été contaminé d'un coup à l'autre. Là, c'est vraiment qu'elles ont partagé, c'est à travers Lynn Charlebois qui a fait donc ce post Facebook où elle a décrit son agresseur sans le nommer, mais les filles qui étaient passées par là se sont reconnues. Donc, c'est comme ça qu'on a fait la rencontre. Mais chaque témoignage vraiment a été fait quand même de façon individuelle. C'est important de le préciser.
Merci de votre enquête. Je pense que ça risque de faire une grande différence dans les comportements. C'est ce qu'on va voir après la pause. On va, bien sûr, j'ai très hâte d'entendre les auditeurs là-dessus et de voir avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite après, Christian Dufour, Lise Ravary, de voir jusqu'à quel point ça part. On parle déjà de révolution, là. Pas sûr que ça révolutionne, mais sans doute que ça va effectivement changer un peu certaines mentalités.
Espérons que le mot inacceptable, on va être plusieurs à le prononcer maintenant et à le dire haut et fort et pas avoir peur. La semaine passée, je parlais du petit rénaiseux. Là, là je veux qu'on passe du petit rénaiseux à inacceptable. Ça ne passe pas, puis il faut le dire à voix haute, je crois.
Oui. Il faut que tout le monde s'en rende compte. On va également parler à quelqu'un qui travaille dans le milieu de la construction parce que j'aimerais qu'on élargisse. On parle beaucoup du milieu des artistes. Puis la crainte, c'est toujours de dire, ben ça se passe dans le milieu du spectacle, c'est des artistes. mais non, ça se passe tous les milieux. J'ai en tête cette Karine la semaine dernière, cette infirmière qui me disait qu'elle a été obligée de quitter son poste qu'elle aimait à travailler dans un cabinet de médecin. Son médecin, le patron, avait l'habitude de lui coller son pénis dans le dos. Puis elle, le petit rire niaiseux là, que tu décrivais, Émilie, avec Maxime Roy, la comédienne, la semaine dernière, elle disait, à chaque fois, ça me figeait. Puis je faisais, voyons, qu'est-ce que tu veux faire quand tu te fais plaquer comme ça et que tu te sens toute seule? Merci beaucoup. Merci de votre enquête. Monique Néron, Émilie Perrault, des collègues du 98.5, vous pourrez réécouter, bien sûr, ces extraits d'entrevue dans le cadre de nos bulletins de nouvelles. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On a pris beaucoup de retard, mais ça vaut la peine. Il y a des journée de même. Paul Arcand peut le faire aussi, alors. Je peux le faire, vous êtes d'accord?
Absolument, tout à fait. Tu es dédouanée, Isabelle.
On revient tout de suite après la pause avec vos commentaires. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Lise Ravary va nous dire ce qu'elle en pense. Christian Dufour également. À tout de suite, tout le monde. Mes invités, Lise Ravary, chroniqueur au Journal de Montréal. Christian Dufour, politologue et chroniqueur également des grands points de l'actualité. Des habitués de notre émission. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Christian,
bonjour,
Lise. Bon, j'aimerais avoir votre réaction là, par rapport à tout ce qui s'est dit. Éric Salvaille qui est tombé, Gilbert Rozon qui retombe, parce qu'on se souvient de son histoire de 98. Beaucoup d'ailleurs des clips qu'on a entendus, des témoignages de ces femmes datent de cette pré-époque, là, avant que finalement une plainte l'oblige à reconnaître certains gestes. Depuis, on sait que Gilbert Rozon a été réhabilité. C'est un cas de réhabilitation réussi, là.
En fait, on pensait.
Oui, et là, c'est la plainte de 2016 qui me préoccupe beaucoup parce que on aurait pensé de quelqu'un. Puis là, la présomption d'innocence, on est dedans, on la comprend, et puis on le dit à tout le monde. Tant qu'il n'y a pas de condamnation officielle, quelqu'un est innocent et il a le droit de se défendre. Mais quand il y a quand même des allégations de plus en plus nombreuses, on peut effectivement se poser des questions. Lise, comment tu vois la chose aujourd'hui et quel est l'impact tu penses que ça puisse avoir?
Moi, j'essaie de voir en avant et de me dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et demain pour changer dans la mesure du possible les choses. Je pense qu'il y aura toujours des gens, des hommes ou des femmes avec une conception tordue de la vie et on est quand même dans l'être humain, là. La perfection n'existe pas, mais on peut faire mieux. Et il faut se poser la question. Je ne comprends toujours pas comment ça se fait que le gouvernement du Québec, qui est capable de choses extraordinaires, de faire des barrages, de construire des avions, est incapable d'accoucher d'un cours d'éducation sexuelle
Ben là, Sébastien Brou, ce matin, semblait être un peu plus pressant et semblait, j'ai attrapé vite là, son scrum, où il disait, il est peut-être temps là, qu'on ramène vraiment les cours d'éducation. Parce que là, on a compris que c'est juste de l'intégration dans certaines matières, mais bon.
Mais bon, on verra. Alors, pour moi, c'est demain qui m'intéresse. Hier, on peut pas le changer, mais on peut apprendre.
Oui, Christian.
Ben moi, je trouve que c'est un cataclysme. En fait, c'est la chute de 3 géants. Qui contrôlaient leur secteur au Québec, parce que je remets même à Marcel Aubu, en fait, dans le domaine du sport, qui était un dieu dans le domaine du sport, Éric Salvaille dans la production de télévision, puis Monsieur Roson dans le domaine
du spectacle.
De l'humour du spectacle. C'est des gens de pouvoir. Ce qui est de choquant, à mon avis, c'est vraiment l'abus de pouvoir de gens en situation d'autorité. Il y a les aspects sexuels dont on parle, mais moi, ce qui me choque, c'est beaucoup des gens qui ne parlaient pas parce qu'ils voulaient pas perdre leur job. À toute chose, malheur est bon. Vous parlez d'éducation sexuelle, Lise. Moi, je trouve qu'au-delà de l'éducation sexuelle, ce que les gens comprennent aussi, c'est des sanctions aussi dramatiques que ça. Il y a un message, là. Surtout que ça se rattache à un mouvement mondial, l'affaire Weinstein, là. C'est que toutes les personnes qui sont susceptibles à un moment donné d'avoir des comportements sexuels délinquants, il y a un gros message. T'as beau être au sommet de ton art, t'as beau être riche, t'as beau être célèbre, t'as beau être populaire, tu peux chuter, tu peux en quelques heures si tu ne respectes pas certains principes. Et c'est un changement de paradigme, comme on dit dans le jargon universitaire, je pense, c'est que ça sera plus jamais tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il y a des comportements avant qui étaient tolérés, en fait, de la part des gens puissants qui... Je dis pas que ça arrivera plus, mais là, la sanction est tellement dramatique et peurante que ça va en faire réfléchir certains quand même.
Je me demande combien, à Montréal, au Québec, combien de personnes aujourd'hui tremblent? Parce que c'est dans tous les milieux. Oui. Là, on le voit parce que c'est le show business, puis c'est le milieu dans lequel on appartient dans un sens, mais dans les bureaux d'avocats. Moi, j'ai entendu des histoires dans les bureaux d'avocats à faire lever les cheveux sur la tête.
Dans le milieu de professoral?
Ben moi, pour être franc, une question que je me posais, j'en parlais à Lise tout à l'heure hors d'onde. Moi, je me pose la question, est-ce que dans le monde du show business, où l'ego est extrêmement valorisé, là, on est dans un narcissisme très spécial, est-ce que c'est pas plus prononcé que dans les autres milieux? Je veux pas dire que ça existe pas dans les autres milieux, mais moi, je trouve qu'il faut se garder quand même d'une atmosphère qui peut devenir un peu sacho-sorcière ou de dire, bon, ben là, il y en a partout, c'est beaucoup. Je dirais qu'il faut garder une certaine rigueur.
Moi, je pense qu'il y en a partout où il y a du pouvoir et où il y a de la hiérarchie et où quelqu'un peut tirer avantage et partir.
Mais le danger, je trouve, c'est qu'on abandonne une certaine rigueur. Entre autres, bon, il y a le viol, il y a l'agression, il y a le harcèlement, il y a les propos inconvenants, il y a le flirt prononcé. Tu sais, il y a beaucoup de nuances de différents. Dans un premier temps, ce qu'il y a de bon, c'est que des gens, et moi, ça m'a beaucoup touché, les gens qui parlent enfin, qui, pour pas perdre leur job, se taisaient alors qu'on les écœurait. Moi, c'est ça que je retiens. Et il faut encourager ces gens-là à parler. Mais dans un deuxième temps, il y a des effets pervers qui peuvent découler de ça. Il faut pas être naïf quand même.
Oui, on va revenir là-dessus. Et vous avez raison de dire, moi je le dis depuis une semaine, ça fait au moins nous une semaine qu'on est là-dessus. Puis avant même toutes ces histoires, chaque fois que j'ouvre les lignes pour parler, par exemple, des cas de harcèlement et d'agression sexuelle, des jeunes garçons, des jeunes hommes au Québec marqués par ce que des religieux ont pu leur faire. Je veux dire, ça fait des années, là, au Québec, c'est fou comme il y a des hommes qui ont été agressés par des oncles, par des proches, par des curés, par des entraîneurs. On l'a vu, là. Il y a un cas encore, l'histoire des entraîneurs sportifs. Il y a une athlète américaine qui vient de sortir, là, en plus, pour dire qu'elle a été agressée sexuellement par son entraîneur. Il y a tout le milieu du sport aussi. Il y a vraiment, moi, je pense que c'est effectivement dans tous les milieux. Et après la pause, on va parler, entre autres, à quelqu'un qui œuvre auprès des femmes du milieu de la construction. Et dans ce milieu-là, je peux vous dire que les jokes de cul, là, ça y va au toast, comme on dit, hein. Est-ce qu'on doit tolérer ça? T'sais, c'est vrai qu'il y a des degrés.
Mais joke de cul, regarde, Isabelle. Joke de cul, c'est quand même pas la même chose.
Hein? C'est pas de l'agression sexuelle, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a pas moyen de parler d'autre chose à un moment donné? Tu comprends? Dans un contexte, on parle de travail, là. Tu vas prendre une bière, tu vas dans un bar, tu t'amuses avec ses amis, tu peux faire toutes les blagues que tu veux dans un contexte de travail.
Non, c'est vrai.
Est-ce que c'est approprié de parler de tes performances sexuelles, de te sortir le zid, de le mettre sur la table? Est-ce que de pogner le cul des confrères, est-ce que c'est approprié?
Il y a un tas de différences à faire. C'est-à-dire que, juste dans ce que vous avez dit, une joke de cul, c'est pas comme mettre son pénis sur la table. Donc, il va falloir procéder à toute une série de distinctions. Sinon, moi, ce que je crains, puis là, je trahis peut-être mon âge, je crains que dans l'avenir, ça affecte les relations entre les êtres humains. C'est-à-dire que de toucher quelqu'un, je touche Lise actuellement, ça soit dangereux parce que tu sais pas comment ça va être interprété. Et ça, c'est terrible, ça. Les gens vont moins se toucher physiquement. Parce que ça devient dangereux, se toucher.
On le voit dans les écoles, les professeurs, aujourd'hui, ne réconfortent plus les enfants parce qu'ils n'ont pas le droit de leur toucher.
Oui, mais c'est parce que ça, c'est une perte de... Le jugement est allé quelque part.
Oui, mais c'est ça, mais il faut faire attention que le jugement...
Mais c'est énorme, on s'entend que c'est énorme.
Vous avez raison. C'est toutes des bons commentaires. On revient là-dessus, d'ailleurs. Et avec notre entrevue avec une spécialiste des ressources humaines et des relations de travail dans le milieu de la construction, manquez pas ça, restez là tout de suite. Moi, j'ai envie ce matin de à nouveau rappeler qu'il faut sortir du milieu du show business parce que c'est trop tentant de dire que dans ce milieu-là, ben c'est comme ça un peu. Et il y a bien des gens, des gars, entre autres, qui me disent, ben ouais, mais les filles en ont profité. Parfois, il y a des femmes qui, pour leur avancement personnel, ont accepté certaines choses. Accepter, c'est pas toujours... des fois, tu t'acceptes, mais c'est pas parce que ça te tente. Mais bon, après, on peut débattre de ça, puis on en aurait pour une heure juste sur cette question. Je pense que c'est important de dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent là-dessus, et des hommes aussi, que dans tous les milieux, il peut y avoir des agresseurs, il peut y avoir des abuseurs. À partir du moment où on est dans une société de pouvoir, il y a toujours quelqu'un qui peut essayer d'en tirer parti. Et la sexualité, c'est quelque chose d'intime. Ça marque, visiblement, et ça peut faire beaucoup de dégâts. Lynn Laperrière, depuis 28 ans, est spécialiste des ressources humaines et des relations de travail auprès de femmes du milieu de la construction. Bonjour, Madame Laperrière.
Bonjour, Madame Maréchal.
Est-ce que c'est juste de dire que dans votre milieu, il y a effectivement énormément de harcèlement sexuel et que c'est pas facile pour les femmes qui sont dans la construction au Québec?
Écoutez, le milieu de la construction regroupe plus de 153 000 travailleurs au Québec. Seulement 1,6% représente les femmes en 2016. Ce qui fait en sorte que une femme dans un milieu d'hommes est vraiment mise dans des situations à risque d'être victime d'harcèlement. Et là, je vous mets un bémol. L'harcèlement sexuel, ce n'est pas monnaie courante, puis c'est pas monnaie généralisée. Il faut faire attention. Il faut utiliser les médias pour justement parler des situations qui sont tout à fait inacceptables. Les milieux de travail sont propices d'être victimes de situations conflictuelles qui peuvent dégénérer à du harcèlement psychologique ou encore harcèlement sexuel. Mais le harcèlement sexuel est quand même isolé. C'est un geste isolé qui doit être traité immédiatement. Ce qui fait que le harcèlement perdure, c'est le fait qu'il n'y a pas de dénonciation, que les victimes se sentent incapables d'aller chercher des recours. Ils ne savent pas où s'adresser. Pourtant, dans chaque entreprise au Québec, il y a un conseiller en ressources humaines, il y a un programme d'aide aux employés. Dans certains milieux, il y a des associations syndicales qui mettent en place des représentants puis des personnes qui peuvent venir en aide. Il y a des psychologues industriels qui interviennent dans des situations à risque. J'ai personnellement traité des situations de victimes où j'ai dû intervenir avec elles pour les aider à passer à travers ce créneau-là, ce processus-là. Ils ont besoin d'aide, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils se sentent coupables.
Est-ce que ça va jusqu'à la police? Avez-vous eu à gérer des cas?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est nécessaire. Un cas d'harcèlement sexuel, c'est un dossier criminel. Il faut nécessairement le dénoncer, mais il faut soutenir la personne qui est victime. Elle ne sait pas comment réagir face aux émotions.
Mais est-ce que c'est encore difficile, vous diriez, Mme Laperrière, aujourd'hui?
Ah oui, toujours difficile. C'est une atteinte à l'intégrité intime d'un individu.
Mais je veux dire, est-ce que c'est difficile par exemple, de mener à bien jusqu'à jusqu'à la police, jusqu'au procureur? Est-ce que la justice, vous la sentez différente aujourd'hui par rapport à ces cas-là?
La justice, elle est là pour traiter les cas qui sont traitables, tout à fait. La notion de preuve, elle est importante. Plus la personne qui est victime attend, plus c'est difficile. J'ai travaillé plus de 15 ans dans le milieu de la construction, aux enquêtes notamment, dans différents milieux. Je suis actuellement au niveau des aides de la construction. Je suis administratrice des aides. C'est un groupe de soutien qui sont là pour promouvoir les intérêts, les droits des femmes, pour leur donner de l'information. Je donne des conférences annuellement pour aider ces femmes-là. Et je suis présidente du comité des casques roses. C'est un groupe d'entraide pour aider les membres des ailes de la construction, celles qui travaillent sur des milieux de, des chantiers, qui vivent des problématiques, justement pour les accompagner dans des situations difficiles.
Parce que j'ai une femme, une de vos membres sans doute, qui m'a écrit il y a quelques jours pour me dire, moi je pense faire autre chose, je suis une femme de la construction, j'adore ça, mais je pense me recycler parce que je suis plus capable de me faire dire par des gars, hey, tu veux voir mon pénis, viens dans mon camion.
Moi, ça fait 28 ans que je suis dans le milieu de la construction et je l'adore. Évidemment que c'est pas évident de subir jour après jour des comportements de conduite inacceptables. Malheureusement, il y a personne qui est capable ou qui a le pouvoir. Vous l'avez mentionné tantôt, le gouvernement du Québec n'a pas été capable de mettre en place des cours d'éducation sexuelle. Ben, peut-être qu'il va falloir faire une éducation de la société en général.
Vous pensez que ça va changer ce qui se passe rapidement? Vous pensez que ça va changer les choses?
Tout à fait. Le comportement est changeant. Par contre, il faut pas l'encourager en évitant des sanctions. Dans toutes les entreprises, des sanctions disciplinaires, ça existe. Il faut pourtant les appliquer. Des recours au civil en dommages et intérêts parce que la victime a perdu son emploi ou encore qu'elle a perdu du salaire parce qu'elle a été malade avant de porter plainte. Puis jusqu'au recours au pénal parce que ou au criminel, parce que c'est un dossier criminel, une accusation d'harcèlement sexuel, c'est un dossier criminel. C'est important, les policiers interviennent immédiatement, sans délai. Faut pas avoir peur de dénoncer les situations, mais avant d'arriver au dossier criminel, en milieu de travail, il faut nécessairement signaler immédiatement les situations, de sorte qu'il y ait des interventions et la preuve, moi, je l'ai fait, je l'ai vécu, je suis intervenue dans des situations, dès qu'on intervient, on signale les situations, puis on met en garde, puis on applique les sanctions, les comportements changent, et immédiatement, la beauté de la chose, les hommes qui sont dans le milieu de la construction n'acceptent pas qu'une femme soit maltraitée ou qu'un collègue soit maltraité, et vont vraiment reconnaître la femme qui est capable, justement, de dénoncer cette situation-là. Ils vont se mettre derrière elle pour l'appuyer.
D'accord.
Vous seriez surpris. Mmh. Alors, c'est important. Les femmes qui ont peur de rester dans le milieu, ben justement, il faut pas que ça continue. Il faut continuer de dénoncer les situations et vous allez voir, ça va se faire de façon très rapide l'évolution.
Merci beaucoup. Lynn Laperrière, spécialiste ressources humaines, relations de travail de femmes du milieu de la construction, entre autres les ailes de la construction. On va s'arrêter ici, on vient tout de suite après. Je peux vous dire que ça va me prendre la journée pour lire tous les commentaires que vous m'écrivez. Beaucoup de gens qui témoignent que dans leur milieu de travail, beaucoup de gens qui veulent rester encore anonymes, qui veulent pas témoigner, qui veulent pas nous appeler pour pas trop ressasser des vieilles affaires parce que oui, il y a beaucoup de gens, hommes et femmes qui ont eu toutes sortes de cas comme ça et pas toujours de viol ou d'agression sexuelle complète, mais beaucoup d'inconduite sexuelle dans les milieux de travail, beaucoup d'inconduite sexuelle, beaucoup de malaise par rapport à certains comportements sexuels, des gestes déplacés et quelqu'un m'écrit et dans le fond, pourquoi dénoncer? Peut-être terminer là-dessus parce que le commentaire, c'est si un gars comme le maire de Montréal-Nord, ancien policier Gilles Deguire, vous souvenez de cette histoire, qui a fait un mois de prison pour avoir agressé une fille de 13 ans pendant 2 ans. Bon, je dois dire que c'est 6 mois de prison qu'il a fait, non pas un mois, mais c'est vrai que quand on voit ce genre de peine, finalement, quand il y a effectivement procès, on se dit, ça fait beaucoup de bruit, puis finalement, il n'y a pas beaucoup. Il y a des petites tapes sur la main, là, tu sais.
Ces lois-là ont été votées, écrites à une époque où on prenait les choses pas moins au sérieux, mais oui, moins au sérieux. Il faudrait les changer. Moi, la chose qui me monte quand j'entends tout ça, c'est la honte. La honte avec laquelle les femmes vivent alors qu'elles sont des victimes. C'est pas elles qui devraient avoir honte.
Mm-hmm. Ben, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même une sanction énorme du tribunal populaire qui, pour une fois, joue un rôle bien. Dans le cas de M. Salvaille, Roson et Marcel Aubut.
Tu trouves que la société est trop sévère?
Non, pas trop sévère. Je trouve que le message est très clair. Au contraire, il y a un message très clair. Il y a une vraie sanction.
On l'accepte.
C'est pas juste criminel, là, les sanctions. Et l'autre point, j'ai bien aimé votre invité là, qui travaille dans le domaine de la construction. Moi, ce que j'ai retenu quand même, ce qu'elle a dit, c'est que ça restait isolé. L'important, c'était de dénoncer immédiatement. Et moi, j'aime pas beaucoup l'idée dès qu'on dit, bon, là, c'est la pointe de l'iceberg, il y en a énormément dans tous les milieux. Ça, on n'a pas de preuve de ça. Et ce que je crains, c'est que le milieu de la construction, madame le dit, elle adore travailler dans ce milieu-là. C'est un milieu massivement masculin. C'est clair que par moment, il va avoir des propos de gars. Ce que le danger, c'est qu'on mélange.
C'est-tu des propos de gars,
non,
ça, toi,
Non, mais un gars et une fille, c'est pas pareil. Un milieu massivement masculin, c'est pas pareil. Hey, moi, je crée beaucoup.
C'est fini. On doit se quitter là-dessus. Merci, Christian. Merci, Élise. Mais il y a un autre débat, là.